En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, nos drôles de dames nous ont rejoints. Avec nous ce soir, comme chaque lundi d'ailleurs, David Lortolari. Bonsoir David.
Allô Fourine, salut messieurs,
comment
salut
à tous.
Ça va Dave? Il va pas mal, sauf que j'ai un projecteur dans mon tableau là, donc j'arrive pas à voir le classement. Donc je vais le faire de tête peut-être tout à l'heure. Dortmund est en tête, hein, je te le dis tout de suite. Ah oui,
merci.
Allez, technicien sont
là. Simone Rovera est là également. Ciao Simone.
Ciao, bonsoir, bonsoir.
Comment ça va?
Tendu.
L'émotion, la veille de la grande soirée.
Non, ça ne s'appelle pas de l'émotion, ça s'appelle
c'est
de la, ça s'appelle du stress.
Combien tu passes d'équipes demain?
Non, l'émotion, c'est après.
Il faut faire
à la fin de la semaine, tu passes combien d'équipes?
Il faut faire 4 sur
4. Annonce.
4 sur 4.
Les 4 sur 4,
attends, c'est ce que les passer.
Mais ce serait, on va y revenir tout à l'heure, mais ce serait, ça ferait bien longtemps.
3 sur 4, objectivement.
Ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé.
Début des années 2000, non?
Ouais, c'est ça.
3 sur 4, combien t'en passes, toi, David?
3.
Tu penses que t'en passes 3?
Offenheim va rester sur le carreau, les autres passent, oui. C'est fait déjà, c'est fait, Daniel.
Ah oui, en plus, c'est vrai. Donc, ouais, bien
tiens,
sûr.
Tiens, les gars, on annonçait tout à l'heure. Tiens, Julien Laurent, c'est là aussi, Julien.
3 sur 4, c'est bien.
Ouais. Bonsoir à tous.
Bonsoir, Julien. Enfin,
Jennifer, il pourrait en perdre une importante.
Jennifer, oui, Jennifer. Alors, tiens, sache que
c'est possible.
On se balance des textos toute la journée pour préparer les émissions.
Oui.
Et bon, aujourd'hui, tout le monde t'a appelé Jennifer. Voilà.
Ça fait un petit moment, c'est dur pour lui. Il n'est pas au courant.
Ça va, ça va.
Voilà, maintenant, tu le sais, quoi.
C'était. Ouais, voilà, ça va, ça va.
Voilà, Jennifer Lawrence, vous aurez compris, bien sûr. Alors, on se faisait un petit jeu, là. Alors, vous êtes des grands malades, là, sur le hashtag RMC Live. Les sponsors les plus pourris qui ont existé sur les maillots de foot. Alors, on a des trucs, on a du Shopee. Il y a Robert Malm qui nous écoute, qu'on salue d'ailleurs. Le Shopee sur le maillot de Lens. Peau douce, c'était Lille. Et ce sont bien des couches, hein, peau douce. Hein. Couches jetables.
Ah ouais, en aucun cas du PQ.
En tout cas,
je suis jamais dessus, avec.
Justin Brideau à Lyon, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. La Halo Vêtements à Châteauroux. Voilà, on a Alain qui nous dit ça sur le hashtag RMC Live. Vous, dans vos pays respectifs.
C'est pas sérieux, t'es pas pris au sérieux. Je suis désolé, c'est comme Baguet Pille à 3.
Exactement, Baguet Pille à 3 il y a quelques années. C'est quoi les sponsors les plus kitsch qui ont pu
exister? Moi, je pense à un sponsor que Fribourg, petit club régional du sud-ouest de l'Allemagne, a en ce moment encore. Ça doit être le Schwarzwald Milch, qui est un lait local, lait régional. Donc, ça fait pas super sexy quand tu veux jouer la
Coupe. Comment ça, Pierre?
Moi, t'es l'entreprise locale.
J'ai eu Lactel, BA, je sais plus, il y en a eu
Lactel.
Il y en a eu un troisième aussi, qui était un des produits.
Auxerre avait la Chayotine, mais c'était.
Ah non, le Duc de Bourgogne, surtout.
Duc de Bourgogne,
oui, c'était le roi du poulet.
Avant. De toute façon.
Ah, oui. C'est le roi du poulet qui dit
c'est
un jeune club.
Simone, fais pas genre, il y a que des trucs là en Italie.
Ça se
ouais, je suis en train de réfléchir. Je me rappelle que c'était un peu triste. L'Inter, à l'époque, en années 90, avait un sponsor Fiorucci, qui c'était c'était de la charcuterie.
Ah oui, mais c'était une bonne marque de la charcuterie au très haut niveau, quand même.
Très haut niveau, mais c'était la charcuterie.
Attends, t'as pas eu des trucs kitsch en Italie?
Je suis en train de réfléchir un peu.
Ah, on va trouver.
On a quand même beaucoup de charcuteries, hein. Même Torino.
Ah, t'as eu du Parmalat aussi, là, on parlait du lait tout à l'heure.
C'était pas.
Ah non, c'était bien, non.
Excuse-moi, mais en Italie, la charcuterie, c'est noble.
Ouais, voilà.
C'est pas la même chose, quoi.
Oui,
à dire que c'était pas.
C'était des marques.
C'était quoi Sedan déjà?
C'était
quoi Jean Floch, non?
C'est pas Justin Bridoux. Justin Bridoux, c'est de l'industriel.
Peut-être sur le short, toi.
Avant encore. Oh, attends, il était énorme leur truc. En tout cas, c'était pas joli.
Les joueurs avaient une Smart d'ailleurs.
Oui, mais c'était pas très esthétique. Époque Nicolas Sacchi.
Je préfère avoir Smart quand même, une petite Smart pour aller à l'entraînement qu'autre chose.
Quoi qu'une Opel Frontera comme t'avais toi? Toi, c'était classe ce que vous aviez à l'époque.
Moi, l'Omega, la Vectra, le Frontera, j'ai tout eu.
Bah, Lyon aussi, ils ont fait l'Astra, Giorgio.
Ouais. on avait le tournoi au début de saison en match de préparation, on faisait le Milan AC, le Bayern et le PSG, c'était un tournoi
Opel.
Ouais. On faisait le mi-temps chacun contre.
Les gars, on va filer en Angleterre. Il y a eu du lourd en Angleterre ce week-end. Jingle, Julien Laurence.
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Alors, les enjeux des clubs anglais en Ligue des Champions cette semaine. Demain 21h, Tottenham joue sa qualif en 8e, ce sera à Barcelone. Man City est qualifié mais devra faire au moins nul face à Hoffenheim pour assurer la première place du groupe où figure l'OL. United est qualifié, alors il joue aussi la première place. Et donc Liverpool, on en a parlé tout à l'heure dans le groupe du Paris Saint-Germain. Parlons un petit peu de ce Chelsea-Manchester City de ce week-end, si tu veux bien, puisqu'on évoquait le groupe de l'OL. Victoire 2-0 de Chelsea face à Man City. Première défaite de la saison pour les Sky Blues. Ça a beaucoup fait parler ça en Angleterre forcément, Julien.
Ouais, bien sûr. Alors, on en avait parlé dans l'émission samedi soir déjà. Juste après, j'ai re-regardé le match pour voir si mon ressenti était le même. La première mi-temps de City, elle est exceptionnelle. Sincèrement, jusqu'à la 45e minute où Chelsea marque sur son premier tir, même non cadré ou cadré mélangé, sur son premier tir, Chelsea marque le but de Kanté. C'est la cinquième passe seulement qui réussit dans les 30 derniers mètres de City dans cette première période, le centre d'Hazard pour Kanté. De l'autre côté, t'as 53 passes pour City dans les 30 derniers mètres adverses. J'ai trouvé la première période de City exceptionnelle en termes de maîtrise technique, de maîtrise tactique, les occasions qui sont créées, d'accord, ils ont pas marqué de but, donc forcément à la mi-temps ils perdent, mais j'ai trouvé cette maîtrise assez incroyable. Et le problème de City, je trouve, c'est que parfois ils s'installent dans ce confort quand ils sont très au-dessus des adversaires, ou après ils ont plus de mal, notamment quand ils sont menés et quand ils doivent courir après le score, comme on l'a vu après la pause.
Ouais, c'est vrai qu'à la mi-temps, ça faisait quand même hold-up, hein, le 1-0 et le but de Kanté. Hein. Franchement, c'était leur seul tir cadré. Hein, on en avait parlé ce week-end également. Alors, ce qui fait beaucoup parler en Angleterre autour de ce match, Julien, bah, c'est une chose qui s'est passée hors du terrain, justement, et qui concerne Raheem Sterling. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est le gros débat ici en Angleterre, le retour du racisme, ou en tout cas la réapparition du racisme dans les stades en Angleterre de la part des supporters. On se rappelle le week-end dernier la peau de banane lancée par un supporter de Tottenham en direction de Pierre-Emerick Aubameyang après son l'ouverture du score et son penalty. Contre,
tu te souviens qu'on disait, c'est quand même de la folie parce que le gars évidemment va se faire choper évidemment. Hein. Ok, radier à vie.
Radier à vie.
Il s'est fait choper. Radier à vie. C'était évident.
Ils ont eu 4, je crois d'ailleurs. Ils ont arrêté 4 mecs.
C'était évident. Oui, très bien. Et c'est pour ça que je disais, mais qu'est-ce que le mec, enfin le type, il sait qu'il va se faire choper, il sait qu'il sera radié à vie. Bah non, mais c'est une sorte de suicide footballistique.
C'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Quand tu fais ça, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent comme nous. Donc quand tu le fais, t'es déjà débile.
Oui. Je crois toujours qu'il y a un peu de raison. C'est un mobile.
Quand on est arrivé là, c'est chez les gens.
Mais là, en plus dans un stade anglais, c'est une pure folie absolue quoi. Et là, ça a continué quoi.
Bah c'est surtout que Sterling derrière, il est allé plus loin dans ses, enfin il a réagi à ça, Raheem Sterling aussi.
Voilà, alors il a réagi d'une manière selon moi très intelligente, où il n'a pas fait simplement que condamner effectivement ce qui, il a pas dit hein, qu'il avait été insulté de manière raciste, mais il a dit que les médias anglais, le traitement des joueurs noirs en Angleterre par les médias anglais attisait le racisme dans les stades et que ça en était. Une des raisons, en tout cas, il a pris cet exemple qui est vrai, hein, qui est flagrant entre quand Phil Foden, donc la petite pépite de Manchester City, le milieu de terrain anglais de 18 ans, a acheté une maison pour sa maman d'environ 2,5 millions d'euros. Les journaux anglais ont parlé de, eh ben, il assurait le futur de sa famille, de ses parents, il rendait à sa mère. Enfin, c'est un bon fils exactement.
Et là, c'est quoi quand, le problème ? Mais tu vas voir quand c'est un autre joueur qui le fait.
Quand son coéquipier donc à Manchester City dans les équipes de jeunes, un défenseur central qui s'appelle Tosin Adarabioyo, quand lui a acheté une maison pour le même prix à sa famille, les journaux anglais, les gros titres ont dit un joueur qui n'a jamais joué pour l'équipe première se permet de dépenser autant d'argent pour une maison pour sa famille. Et effectivement, le traitement médiatique de la même chose au final, un achat d'une maison effectivement très chère pour la famille, pour les parents, et c'est traité de manière complètement différente.
Le deuxième qui est noir, pas le premier, j'avais pas imprimé l'histoire. Ah oui,
exactement.
Oui.
Et donc Sterling, de souligner que lui personnellement aussi, depuis le début de sa carrière, notamment après le transfert de Liverpool à Manchester City, il est régulièrement, dès qu'il fait quelque chose, c'est traité de cette manière négative, et il le justifie de manière à cause de sa couleur de peau.
Et je pense qu'il a tout à fait raison. Est-ce qu'on est allé demander au journaliste qui a écrit l'article de répondre à ça?
Notamment, ouais, donc c'était le Daily Mail qui a fait qui a une position très limite au niveau du racisme, au niveau de l'immigration, au niveau de ce genre de choses-là, déjà à la base. Et eux, pour l'instant, c'est silence radio. Les autres journalistes sportifs du pays, eh ben, disent que c'est peut-être ce qu'il fallait pour que tout le monde se réveille un petit peu, notamment dans la manière dont les gens parlent, dont les gens écrivent à propos de joueurs de couleur ou de jeunes joueurs, hein, d'un traitement différent, comme Sterling l'a souligné. On va voir si ça va changer. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est lourdement ancré dans la culture britannique, ce genre de choses-là. Et c'est pas nouveau. C'est pour ça que là, entre ce qui s'est passé à Chelsea, ce qui s'est passé à Tottenham, Arsenal-Tottenham le week-end dernier, en Écosse samedi aussi, il y a deux supporters de Hearts qui ont été arrêtés après avoir insulté, après des insultes à caractère raciste envers un joueur de Motherwell. Voilà, je pense qu'ils l'ont partout. Pendant un moment, ça avait disparu un petit peu parce que le football anglais avait fait beaucoup pour éradiquer ce racisme-là. Et là, clairement, c'est en train de revenir dans les stades.
Un mot sur Liverpool également, Julien. Alors, c'est vrai qu'ils sont dans le groupe du Paris Saint-Germain. Ils ont un match important face au Napoli. Ils se sont, du coup, les nouveaux leaders de Premier League avec cette défaite de Manchester City. Ils sont imposés 4-0 à Bournemouth avec notamment un triplé de Salah. Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe quand même dans cette équipe. C'est la meilleure défense en championnat, dans les grands championnats européens, Liverpool. Mais en Ligue des Champions, ils ont beaucoup plus de difficultés.
C'est pas le seul paradoxe. Il y a celui-là. Je crois pas me gourer en disant qu'ils sont invaincus en Premier League.
Tout à fait. Ouais.
Et ils ont perdu trois fois en Ligue des Champions. Cinq matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'apparaît de plus en plus clair. J'annonce pas que je découvre l'Amérique, hein. C'est je pense dire un truc un peu banal.
On croirait pas, de manière.
Mais je pense qu'à Liverpool, Jenny, il y a un truc, c'est que le titre cette année, c'est l'unique objectif
de cette équipe.
C'est obsessionnel, quoi.
Mais comment
le titre qu'on attend depuis 90 ou 11.
Oui, mais Klopp, il dit pas à ses joueurs.
Lié à un manque d'implication ou un.
C'est possible. Je suis pas sûr que cette année.
Vas-y, Julien.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est des matchs qu'ils ont perdu.
Klopp, il dit pas à ses joueurs avant le match à Naples ou au PSG ou à Belgrade.
Les gars, c'est pas grave, évidemment. C'est
voilà,
pas comme
aujourd'hui
ça.
On joue à 50%. Non, mais alors, moi je vois pas un Virgil van Dijk ou un Mo Salah aller au Parc des Princes en se disant, tu sais quoi, on joue contre Southampton samedi, c'est le plus important le championnat, donc on veut j'ai du mal à croire. C'est peut-être aussi que dès que le niveau s'élève un petit peu en Ligue des Champions, à l'extérieur surtout, puisque les trois défaites sont toutes les trois à l'extérieur cette saison, c'est peut-être qu'ils ont un peu plus de mal, que Klopp tactiquement, l'absence d'un plan B, quand ça fonctionne pas vraiment sur ce qu'il a de prévu, donc cette intensité, le pressing haut, les trois de devant, quand Firmino est moins en forme, quand Salah ça marche pas trop pour lui.
Quand t'as un football différent, tactique en face.
Je suis assez d'accord.
Ce qui s'est passé avant.
On continue dans quelques instants, les gars. Il est bientôt 23h. On revient dans quelques instants.
C'est intéressant.
On va continuer juste dans quelques instants avec nos drôles de dames. Il y a petit Fred Hermel qui va nous rejoindre également. Les
soirées du coup Daniel Rio. Du match Chelsea City. D'une question.
On posera une question dans quelques instants. De Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, Simone Rovera, David Lortolari, Julien Laurence. Julien, tu étais en pleine démonstration sur le jeu de Liverpool. On t'a coupé, on te laisse poursuivre, Julien.
Non, c'est juste pour dire, ils sont effectivement assez impressionnants en championnat, notamment défensivement, même si dans le contenu des matchs, je pense qu'ils ont encore, il y a encore de la place pour s'améliorer. Je pense que Firmino, par exemple, est très loin de la saison exceptionnelle qu'il a fait l'année dernière. Et c'est peut-être ça la différence entre City et Liverpool. Le titre, il va jouer entre les deux. C'est que City, ils sont déjà à ce qu'ils peuvent faire de mieux, de maximum. D'accord, ils ont perdu ce week-end, mais Guardiola avait pas l'air si déçu que ça à la fin du match. Liverpool, tu sens qu'il y a encore moyen de progresser, tu sens que Klopp peut encore changer des choses, que si Firmino retrouve la forme qu'il avait la saison dernière, que si Salah se remet à marquer toutes les occasions qu'il a comme la saison dernière, eh ben ils peuvent encore être meilleurs et dans ce cas-là, on aura une vraie course pour le titre.
Daniel, tu voulais poser une question sur City, je crois, justement, le Chelsea City.
Non, c'est une réflexion que je me faisais en regardant le match. Peut-être je vais essayer de bien me faire comprendre, mais bon, d'abord un mot sur City, parce que quand je vois jouer cette équipe, à chaque fois, je suis épaté par ce que réussit à faire Guardiola, parce que je pense qu'au fond, il a des joueurs dans cette équipe qui sont extraordinaires, mais pas à tous les postes, quoi. C'est pas à chaque poste le meilleur du monde, pas au poste d'arrière gauche.
Tu parles de qui de
City. City, je commence. Après je parlerai de Chelsea. Mais ce qu'il arrive devant, il a beaucoup de petits gabarits, tu vois. Alors que des fois on dit qu'il faut quand même être costaud sur les gros matchs, qu'il faut un petit peu de tout, toi, dans une équipe complète. Ce qu'il arrive à imposer au niveau de l'effort à ses joueurs, au niveau du pressing, sa patte qu'il impose en permanence. Quand j'entends dire ouais, mais Guardiola il réussit avec des bonnes équipes comme il faisait au Barça,
il les façonne en général.
Au Barça, c'était au-delà de tout. Ça a marqué l'histoire. C'était Ligue des Champions. Ce qu'il ne fera peut-être jamais avec City, justement pour ces limites-là. Parce que je pense qu'il n'a pas de joueurs totalement hors du commun, comme il avait Messi justement.
Je pense pas que c'est qu'ils sont plutôt totalement façonnés justement à ce qu'il veut ou peut. Enfin,
mais
ouais, en tant
que faire. Mais je pense que si tu lui donnes Messi à City, il va pas dire non. Il sera content de l'avoir ou ce genre de mec un peu hors du commun.
Mais il a quand même des cadors dans son équipe. Hein.
Ouais, là, en l'occurrence, bon,
c'est que des très bons joueurs. Quoi.
Non, mais là, regarde, t'en as quand même deux qui manquent. T'as pas De Bruyne, t'as pas Agüero sur ce match-là.
Déjà, De Bruyne n'est pas là depuis longtemps.
Oui.
Qui pour moi fait partie des cracks.
Oui.
Mais à côté de ça, qui est son meilleur joueur, David Silva.
Non, je te dis que quand De Bruyne manque et que Silva.
Après, c'est cyclique. Après, c'est cyclique. Un coup, c'est Salé. Un coup, ça va être Bernardo.
Je suis pas en train de te dire ce sont que des top joueurs. Je suis en train de dire un Leroy Sané, c'est très jeune. Il a eu des difficultés avec la sélection. Il n'est pas appelé au mondial. Il revient. Il est écarté. Tiens, quand même, ce qu'il réussit à imposer à chaque fois, et même à Chelsea, il perd, mais il impose son jeu. je suis admiratif de ça, parce qu'on parlait, c'est un peu la continuité, parce que j'avais fait un avis jeudi soir sur la mentalité qu'on n'avait pas dans notre championnat de vouloir aller de l'avant, de se battre, de toujours tout donner, qu'il y avait une irrégularité dans l'effort. Quand je vois les matchs de Première Ligue, c'est pas toujours extraordinaire. Le Chelsea-Manchester City, il est pas dinguissime comme match. Autant le Arsenal-Man United qu'on avait vu la semaine dernière, c'était super. Il y en a eu récemment des matchs vraiment top en Première Ligue. Et il y en a eu des moyens. Mais quand tu le regardes, celui-là, peu importe quoi, t'es quand même devant un match où les mecs sont complètement à fond. Et j'en arrive, transition avec Chelsea. Chelsea, ils battent Manchester City avec une équipe où la charnière centrale, au vu des observateurs du monde du foot, c'est deux tocards.
Rudiger et David Luiz, oui.
David Luiz, que plus personne ne considère comme un je suis sûr, on fait notre jeu des chapeaux, il arrive peut-être même pas chapeau 4 en défense centrale. Rudiger, je me souviens quand on les a fait la dernière fois les chapeaux. Moi, à chaque fois, je disais.
Il est catastrophique avec la sélection.
Mais bien sûr.
N'empêche qu'il est quand même en sélection.
Mais oui, mais voilà. N'empêche qu'ils ont fait Ligue des Nations pourrie. Il y a un mondial de
pourrie aussi. Il ne fait pas partie des 30 meilleurs défenseurs centraux du monde.
Je le défendais à grand-peine parce que, franchement, je n'arrive même pas à le défendre parce que moi aussi, je suis loin de le trouver dingue. Mais au moins, je me disais, attends, Conte l'a fait jouer.
Oui.
On change d'entraîneur, il rejoue.
Il a eu des soucis avec pas mal de managers aussi.
Au début, surtout.
Voilà. Après, il s'est embrouillé. Ouais. Mourinho, il s'est embrouillé.
Mais souvent, il a joué.
Oui, puis après, il a souvent été mis sur le côté aussi.
Prends ses stats.
Et là, t'as vu,
souvent, il a plus
et les
infos
du jour en Angleterre, c'est qu'il est peut-être sur le départ aussi. Alors, pour des notions salariales,
je
crois, mais.
Ouais. Il part de la Roma au moment où il part, il fait partie à ce moment-là, on considère que c'est un bon joueur. Mm-hmm. Avec l'équipe d'Allemagne, on voit souvent Istrout. Bon, on n'est pas à considérer que c'est un top. On est bien d'accord. Il est dans l'équipe de Sarri qui le remet. La charnière, c'était David Luiz Rudiger. Il y avait qui encore dans cette équipe? Bon, il y a Kanté qui ne plaît à personne dans cette position-là, mais qui continue de se donner à fond, qui met un but important dans ce match. Et effectivement, peut-être que c'est pas sa meilleure place. Mais bon, quand tu vois, même devant, ils ont pas vraiment d'avant-centre.
Bah là, ils ont joué sans. Pedro Hazard, William.
Ils jouent avec Eden Hazard et leur seul joueur véritablement. Après, moi, j'adore William.
Ouais, tout ça, mais bien sûr, bon, ça va vite. Et ces gens-là, c'est intelligent.
Finalement, c'est.
Jorginho quand même aussi. On l'a pas cité, lui, mais.
Ouais, Jorginho, il vient pas du Real.
Non, okay.
Il vient de Naples. On considère tous que c'est un bon joueur. Je suis pas du tout en train de dire que c'est des joueurs de seconde zone. Mais bon, voilà, je me faisais cette réflexion devant ce match que je trouvais à la fois palpitant et techniquement quand même assez moyen. Il y avait pas mal de déchets. Mais il y a un truc qui est une constante, c'est que les mecs sont là, se défoncent du début à la fin, et que nous, s'il y a une vraie différence. C'est pour ça que je disais la Ligue 1, en fait, jeudi dernier, t'étais pas là.
Il y a de la gestion.
Mais je voulais pas trop taper, moi, sur les mecs et le niveau technique. Ouais, on a beaucoup de carences. Mais commencer déjà par tout donner culturellement.
Par des entraîneurs aussi, ouais.
Avec des entraîneurs qui te demandent d'aller de l'avant.
Je vais te dire quelque chose, Daniel. Et pourtant, c'est moi, quand j'ai été prêté du Paris Saint-Germain à Derby County à l'époque, mais il y a presque 20 ans. C'était en 2000.
Avec Ravanelli.
Si je me trompe. Oui, avec Ravanelli, exact. Si je me trompe pas, en 2001 ou 2002, quelque chose comme ça. Quand t'es français et que t'es habitué effectivement culturellement à rentrer dans un match pour gérer les 90 minutes, c'est-à-dire pour tenir 90 minutes d'un match, c'est pas pareil que quand t'arrives en première ligue et tu le prends en pleine gueule quand t'arrives en première ligue. Et je suppose qu'il y a toujours encore un peu cette notion-là, même si physiquement t'es mieux préparé que nous à l'époque. En fait, t'arrives et toi tu te dis je vais gérer mon match. Sauf que les mecs dès la première minute, ils sont comment? Ils sont à 120%. Ils rentrent comme tu dis.
Pourquoi tu dis je vais gérer mon match?
Non mais t'es pas plus
con qu'un ouf.
Mais parce que culturellement toi on t'a appris à faire ça. On t'a appris à gérer un match.
Je suis content de te l'entendre dire. Non,
mais j'ai jamais dit
je
le contraire.
Je suis content de te l'entendre dire.
J'ai jamais dit
ce que je dis. T'étais pas là. Je disais mais l'un de nos principaux défauts, c'est la mentalité, c'est la culture, c'est à la limite même les joueurs, j'ai même plus envie de leur taper dessus.
Laisse-moi aller jusqu'au bout du raisonnement.
On est des coachs déjà qui disent on arrête de gérer, on arrête d'attendre.
Vas-y, joue.
Est-ce que je peux aller au bout de mon raisonnement?
La possession c'est une forme de gestion aussi. Mais bref, vas-y.
T'arrives en Angleterre, tu te mets au diapason. Si t'es pas trop con, au bout de trois matchs, qu'est-ce que tu fais? Tu commences ta première minute parce que tu peux pas gérer ton match. C'est-à-dire que tu te prends des duels dans la tête le premier quart d'heure si tu veux gérer quoi que ce soit, et tu gères rien du tout. Tu es sur le côté au bout de trois matchs. Donc tu fais comme eux et tu t'aperçois en fait que physiquement ces mecs-là commencent le match à 150% et que tout le monde physiquement baisse à un moment donné l'intensité, mais comme tout le monde baisse quasiment en même temps, alors avec les petites différences par rapport aux qualités athlétiques de chacun, mais finalement collectivement tout le monde baisse, donc t'as pas l'impression que tu perds cette intensité collectivement parce que tout le monde baisse en même temps. Et ben c'est toute la différence culturellement entre des matchs que tu gères.
Et c'est pour ça que je dis que c'est
France,
là qu'il faut qu'on évolue.
Mais sauf que ça, les Anglais, et c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles en Coupe d'Europe souvent ils ont eu du mal,
C'est qu'à un moment donné, quand tu tombes sur des équipes qui savent.
J'aimerais bien qu'on ait le palmarès des Anglais en Coupe d'Europe.
Vas-y, pour finir.
Non, mais qu'on enchaîne. Bien sûr, historiquement, t'en as, mais.
Historiquement. Et c'est derrière
ça. Tu regardes sur les.
C'est comme l'Italie, bah, je l'ai dit.
J'aimerais bien qu'on ait ces difficultés-là, moi.
Bah, tu regardes sur les dernières années. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais des Anglais qui arrivent à faire quelque chose.
Sur ces dernières années, c'est la domination des Espagnols qui est écrasante. C'est pas tant que les Anglais sont mauvais et que les Anglais.
Non, mais je t'ai pas dit que les Anglais étaient mauvais, Daniel. Je t'ai pas dit que les Anglais étaient mauvais. Je te dis que quand ils arrivent contre des équipes qui savent être aussi forte physiquement qu'eux et qui savent mieux gérer les matchs qu'eux.
J'aimerais bien qu'on en arrive à
des Espagnols d'ailleurs.
On en revient à ce que Julien disait tout à l'heure avec Klopp qui a peut-être pas de plan B quand le niveau s'élève, ouais. Le niveau technique.
Allez, j'aimerais bien qu'on arrive à ces problèmes-là, moi.
Allez. Oui, bien entendu.
Les gars, sachez, parce qu'on a plus le temps, c'est qu'on
Il a pas de plan B. Il faudrait qu'il ait un plan A.
En cas d'or, Julien avait mis Lucas Torreira, nouvelle victoire d'Arsenal et Torreira encore marqué, victoire 1-0. Et puis en bidon, il avait mis Pogba, voilà, parce qu'il a pas joué du tout d'ailleurs ce week-end face à Fulham, alors que Manchester United s'est imposé 4.
Pogba, il est encore là, Julien? Ou il est parti?
Je suis là.
Pogba, quand même, enfin depuis la Coupe du Monde, il sait pas c'est quoi. Enfin, il se passe quoi? C'est un bon match, deux mauvais matchs, une altercation avec Mourinho, une affaire de une de magazine où on dit qu'il s'est engueulé. Enfin, entre le nombre d'affaires, le nombre de mauvais matchs.
Je vais laisser répondre Julien, mais ça, je vois pas comment tu peux être bien avec qui t'es complètement en conflit tout le temps, tous les jours.
D'où ma question, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il est en train de gâcher la saison.
Faut qu'il se barre.
Ça sent pas bon du tout. Comme on l'a dit depuis le début de la saison, ça va se finir sur un des deux. Il va devoir partir. Je sais pas lequel partira en premier, mais ça peut pas continuer comme ça. Le fait qu'il soit resté sur le banc sans même entrer en jeu en championnat contre Fulham ce week-end samedi, ça montre aussi. Et Mourinho l'a. Voilà, c'était la réponse de Mourinho. Tu veux pas faire ce que je te demande. Tu joues pas avec la même mentalité que les autres. Mourinho l'a dit après le match. Pogba doit jouer avec le même état d'esprit que les autres joueurs de l'équipe.
Est-ce que objectivement,
pour l'instant, il le fait pas.
Objectivement, il a raison quand il dit ça. Julien, qu'est-ce que t'en penses?
Mais non, parce que moi je pense que comme Pierre l'a dit très justement à l'instant, Pogba, c'est terminé avec Mourinho. Il y a quelque chose qui s'est cassé, il veut plus jouer pour lui, il se parle plus, l'ambiance entre eux, elle est terrible. Et je pense que dans sa tête, c'est terminé. Donc il est pas dans le bon état d'esprit, quoi qu'il arrive, pour jouer avec Mourinho, ça pourrait être n'importe quelle équipe. Avec Mourinho sur le banc, ça marcherait pas non plus. Okay. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est cassé et on peut plus revenir en arrière maintenant.
Ok. Il retournera en Italie, Simone, c'est ça?
Ouais. En janvier.
Jingle Rovera.
En janvier?
Jingle Rovera. Bah alors? Jingle Rovera, on va en Italie. C'est là ou pas? Voilà.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Qu'est-ce que t'as?
On rentre pas dans les détails.
Cacatomo.
Il cacatomollo, comment dire en Italie? C'est pas si vieux, ça va mieux d'ailleurs ou pas?
Ça va mieux.
Il cacato duro du coup. Enjeu italien en Champions cette semaine. L'Inter qui affrontera le PSV joue sa qualif en 8e de Ligue des Champions. Alors l'Inter qualifié s'y fait mieux que Tottenham, c'est ça?
Oui.
Ok, d'accord. Le Napoli, ils ont leur espèce de championnat à 3 avec le PSG et Liverpool. Ouais. Et puis c'est fait pour la Juve et la Roma. Il y a un 4-4 donc à jouer pour les clubs italiens. Et alors pour toi, cette semaine, le foot italien pour retrouver sa grandeur européenne, Simone?
Oui, ça va même au-delà de la Ligue des Champions et j'ai part à côté parce que la belle campagne des com, la belle entretien qui a fait aujourd'hui Cristiano Ronaldo sur les 3 quotidiens sportifs italiens a quand même lancé à déjà un message. C'est Cristiano qui invite, c'est fou, mais il faut les gérer. C'est donc Cristiano 1, tout est rendu ami tous les autres. Donc, ils ont donné aux 3 quotidiens italiens sportifs. Et les messages qu'ils donnent, même si c'est, probablement il y a une arrière-pensée de faire une petite piqûre à Messi, vient jouer en Italie, c'est Cristiano qui aujourd'hui fait de la pub pour les championnats italiens, qui dire combien il se trouve bien dans ce championnat, dans cette club, dans cette ville. Et c'est quelque chose, je trouve, que manquait. Cet ambassadeur mondial aujourd'hui pour les foot italiennes.
Il a mis une petite pique au Real d'ailleurs, en disant, alors je vais le citer, Ronaldo, il dit « À Madrid aussi les joueurs sont humbles, mais ici j'ai l'impression qu'ils le sont davantage. C'est très différent de Madrid ici. En plus, c'est une famille. »
Oui.
Oh là là.
Bon, ce soit Ronaldo ou un autre,
oui.
C'est toujours
mieux là où tu es que là où tu étais avant.
Non, mais attends. J'ai très rarement entendu un joueur étranger arriver en Italie ne pas être heureux d'être là-bas. Très rarement.
Et surtout dans un club
et encore moins à la Juve. La Juve est toujours un club qui marque extraordinairement les joueurs.
Bah ça dépend de certains types de joueurs. Après, c'est
bah, tu joues partout. Hein. Moi, j'ai souvenir de mecs qui disent dans l'Italie, ça a été un enfer, ça a été compliqué pour m'adapter, la vie, etc. Mais pour tout, le jeu.
Nico, la très grande majorité des mecs sont ravis de jouer là-bas.
Tu me parles de Quaresma à Milan, oui, c'est
non. Je te parle de Quaresma, je te parle de Nuno Gomes, il y en a plein. Je te parle d'André Silva, je te parle de. Il y a des mecs qui brillent aujourd'hui, ils ont pas réussi à s'adapter.
Les Portugais, en gros.
Bah moi, je te parle de ceux que j'ai lus.
3 sur 3.
Bon, Thierry Henry. Enfin, tu vois, il y en a
Thierry Henry n'a absolument pas gardé un mauvais souvenir de la Juve.
Non, mais il n'était pas bon non plus. Il vient de me le dire, de toute façon.
Voilà.
Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que Cristiano, n'a jamais dit qu'il n'était pas bien et que ce n'était pas une famille au Real tant qu'il y était.
Ça s'est mal fini quand même.
La fin, c'est quelque chose. Toutes les années qu'il y a passé, il était ravi.
Ça, c'est une chose.
Fred Hermel vient de nous rejoindre, les gars.
Je te dis que profondément, les mecs, quand ils sont à la Juve, ils sont marqués. Comme les mecs de la grande époque étaient profondément marqués par l'ambiance qui régnait dans les institutions que formaient ces clubs-là. Ça, c'est une réalité. Les témoignages sont unanimes.
Oui, non, mais vous avez sûrement raison. Moi, j'ai dit, non, mais l'idée, au-delà de ce qu'a dit Cristiano, c'est-à-dire d'avoir un Cristiano qui, quand il parle, est repris partout dans le monde, qui fait passer certains messages, dont le plus important, je pense, que celui que j'ai plus vu dans les médias étrangers, c'est que Cristiano invite, entre guillemets, Messi à venir en Italie. Ça donne une image du foot italien qu'il n'y avait plus, qu'on avait perdu.
Cette image positive.
C'est quoi ça, Ronaldo invite Messi, il a dit, c'est les médias qui supposent ça.
Il l'a dit dans l'interview.
Il l'a dit dans l'interview. J'ai toujours changé. J'aime les défis dans la vie. Mm-hmm. J'ai joué en Angleterre, au Portugal, à l'Espagne, et là je viens en Italie. J'invite Messi à faire le même. Moi, je suis sorti de ma zone de confort. S'il se trouve bien en Espagne,
c'est une sorte de défi, quoi.
Ouais, bon.
Il les lance un défi.
Mais c'est plutôt mignon la façon dont il le dit.
Dans la façon, mais même si c'est une provocation, dans la façon dont il parle bien de foot où il se trouve aujourd'hui, ça fait une bonne pub à l'Italie et ça.
Alors, on va demander à Fredo comment ça a été perçu. Fred, comment ça a été perçu ça du coup en Espagne?
Bah, c'est pas la première fois. C'est une histoire de famille. Il avait dit au bout de trois jours en Italie, donc on n'est pas étonné. Oui, sûrement. Il est sûrement très heureux, étant même pour lui. Il est resté quand même 9 ans à Madrid. Hein. Donc, mais je pense qu'il se dessert lui-même. Parce que il a gagné 4 Ligues des Champions au Real Madrid, il a gagné 4 Ballons d'Or au Real Madrid. C'est sa propre histoire qu'il est en train de salir finalement.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
C'est dommage, mais je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Et c'est moi je l'aime bien
parce
en plus
que disait Simonet, hein. Simonet disait que c'était juste positif pour eux. Pour le reste, c'est vrai, c'est un peu
il le pense peut-être vraiment que... c'est sûrement
après, globalement
vrai.
Les mecs
il aurait signé ailleurs, il aurait dit la même chose
ces dernières semaines. Mais ces dernières semaines en termes d'image,
elle part de la Juve. J'ai dit quand mon avis tranché, c'est une semaine peut-être déterminante pour le foot italien.
Oui, c'est important,
c'est parce que tout est rétro avec la possibilité de faire 4 sur 4.
La dernière fois, depuis 2002-2003,
c'est autrement plus important, à mon avis.
Meilleur finaliste, finale 100% italienne.
Finale 100% italienne, 3 demi-finalistes sur 4. Là, c'était pas 8e derrière, il y avait la deuxième phase des poules où la Roma s'était fait éliminer. Et surtout, si tu fais 4 sur 4, chose que j'espère, c'est très compliqué, mais c'est pas impossible, ça veut dire que tu élimines Liverpool et Tottenham. Donc, même à niveau d'image, la Serie A montre d'avoir des clubs qui sont capables de tenir le pas et de tenir le défi face à des grands des Premières Ligues.
Liverpool, Tottenham, en Ligue des Champions, c'est pour l'instant pas encore un grand.
C'est quand même Liverpool, une équipe qui a des joueurs très très bons. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, ça marche pas
pour
très bien.
Pour l'instant, c'est pas encore récent.
Mais quand même, c'est une équipe qui a des grands joueurs.
Oui, donc, une bonne équipe, oui.
Et c'est vrai, il faut sortir par l'Inter qui retrouve la Ligue des Champions, c'est un après. Donc, mais après, il faut que ça arrive. Mais c'est pour ça que j'ai dit, si tout ça se passe, avec en plus cette bonus de Cristiano qui fait de la sponsorisation au foot italien à la Serie A en disant première chose, je suis là, je me trouve très bien. Et si quelqu'un veut venir, parce qu'après il parle aussi de Isco, de Marcelo, il dit les grands champions sont toujours attendus ici, on les accueille. Ça manquait ça à l'Italie. Déjà les 4 sur 4 manquaient énormément et j'espère de les faire pour les avoir. Et une grand champion qui fait de la pub énorme dans notre championnat. Je vais dire que les grands joueurs qui a fait un peu plus de pub dans les dernières années, c'était Pogba qui n'était pas encore un grand joueur. C'est-à-dire, de Pogba parlait tout le monde quand il était à la Juve. Mais c'était pas la même chose.
Disons que c'est la Juve qui l'a fait, contrairement à Ronaldo qui est déjà un joueur fait.
Mais voilà.
Ouais. Mais Simonet, franchement, ce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est génial pour la Serie A qui est Cristiano Ronaldo. Mais je pense que, il fait pas de mal à l'Espagne, lui. Il se fait de mal à lui-même. Parce que quoi qu'il arrive, le moment le plus, la période la plus belle de sa carrière au niveau des titres, ça sera le Real Madrid. Parce qu'il pourra pas gagner quatre Ligues des Champions ailleurs. Là, c'est fini.
Mais je suis d'accord.
Tu vois,
mais s'il ne gagne une que... avec la Juve, il montre d'être encore.
Ça sera extraordinaire.
Top, oui. Comme il était au Real.
Non, mais là, ce que veut dire Fred, c'est. Alors,
c'est
en ce moment.
Palmarès,
en termes d'image.
De... qu'il parle pas mal de.
En ce moment, en termes d'image et de communication, alors, il y a eu l'histoire du Ballon d'Or. Alors, c'est pas lui, c'est ses deux sœurs. Mais les insultes qu'elles balancent derrière. Après, le Ballon d'Or de Modric, le soir même, lui, il a aucun message vis-à-vis de lui. Moi, je trouve ça bizarre un peu aussi. Enfin, je sais pas, fais un tweet. Tu tweets tout le temps dans ton avion avec tes bagnoles et tout. Bah, pas faire un truc avec Luka Modric. T'as joué avec lui, t'as régalé, il t'a ramené des ballons d'or aussi.
Dans son avion avec Modric, il dit un bon ballon d'or, etc.
Le mec conduit dans son avion.
Non, mais je trouve ça, mais moi je suis assez d'accord avec Fred. Je trouve qu'en ce moment, peut-être qu'il fait une bonne pub pour le foot italien, mais c'est vrai qu'il a aussi des choses qui sont assez maladroites, mine de. Tu vois? Alors, tant mieux pour la Serie A, hein, et tant mieux pour lui s'il gagne. Moi, je trouverais ça génial qu'il gagne une Ligue des Champions avec la Juve.
Ça fait penser un petit peu, je suis très bien là où je suis, mais comme ça s'est mal fini ailleurs, je vais quand même un petit peu tailler. Tu vois, ça fait penser un peu à ça, c'est dommage.
Mais c'est ça. Et puis en plus, il faut expliquer une chose qui se passe autour de Ronaldo, c'est-à-dire que Ronaldo, c'est tout un ensemble et des lobbies qui sont autour de Ronaldo qui s'affrontent. Faut pas croire que c'est le clan Ronaldo, c'est tout le monde pense la même chose et tout le monde va dans le même sens. Hein. Il y a des gens, il y a des luttes d'intérêts autour de Ronaldo et peut-être que les gens qui le conseillaient le mieux aujourd'hui ne sont pas ceux qui commandent.
Mais quand tu parles de, quand tu utilises le mot clan, déjà ça explique beaucoup des choses. Oui, quand tu as un clan autour de toi, t'as des déviations.
Autre info en Italie également. Alors, tu l'avais évoqué d'ailleurs il y a quelques semaines aussi, il y a 15 jours, l'éventuel retour de Zlatan à Milan, finalement, ça ne saura pas. C'est ce que Leonardo indique en tout cas.
Déjà, ce que dit Leonardo, il faut les prendre. Après, il faut voir si c'est.
C'est de l'intox ou pas.
C'est de l'intox ou pas. L'histoire, c'est ça. Zlatan, aux États-Unis, n'a pas les contrats de designated player. C'est-à-dire, c'est pas un des joueurs qui a les grands salaires. Ils sont trois dans Los Angeles. Si c'est libéré une place, lui aura cette salaire. Ce que dit Leonardo, c'est que Ibra a toujours fait comprendre que s'il avait cette opportunité, si Los Angeles lui donnait ce qu'il avait demandé, il aurait préféré rester à Los Angeles. Apparemment, c'est ouvert cette porte, chose que jusqu'il y a quelques jours, il n'y avait pas. On va voir. Aujourd'hui, il n'a pas encore signé le nouveau contrat avec Los Angeles. Il n'a encore rien fait de son avenir. C'est peut-être aussi une méthode pour brouiller les pistes. Moi, je suis allé chercher par hasard sur Google il y a quelques jours communiqué PSG, parce que je voulais chercher un communiqué du PSG qu'on connaît très bien, qui est sorti. Et je suis tombé sur un communiqué où il y avait Leonardo comme directeur sportif. Les PSG annonçaient d'avoir arrêté toute négociation avec Milan pour Thiago Silva. Et après, quelques mois après, ou quelques semaines allées, ou quelques jours après, il est arrivé. Donc, il faut voir. C'est une forte déclaration. On n'est pas encore en temps de mercato. Tout peut se passer quand même.
Alors, très vite, ton Il Cadoro et le Bidone de la semaine.
Alors, je commence avec les Bidone, parce que je veux faire très vite. Mais c'est un sujet très compliqué. Et c'est Eusebio Di Francesco. Et avec lui, toute la Roma.
Entraîneur de la Roma, ouais.
Une match comme ça, alors Cagliari, déjà, la situation, c'est catastrophique. C'est très compliqué. Aujourd'hui, ils sont en mise ouverte obligatoire, qu'on peut dire, jusqu'à la fin de la semaine. Ils vont jouer ce match des Ligue des Champions. Mais quand même, ils restent en ces ritiro forcés. Ils gagnent ces matchs 2-0 à 10 minutes de la fin. Ils vont égaliser. Cagliari égalise de partout. Et quand ils égalisent, Cagliari est réduit à 9.
Ça la fout mal, quoi.
Et tu vois une défense de la Roma et des joueurs de la Roma totalement hors contrôle. Ils savent pas quoi faire dans les dernières minutes. On a totalement perdu la Roma de la saison dernière, et c'est pas seulement pour le départ de Nainggolan, Strootman et Alisson. Mon cador, et je suis très heureux de le dire parce que c'est un retour important pour moi en Serie A, pour ce qu'il représente à niveau de football sur le terrain et de terrain, et c'est Cesare Prandelli. Bon, il n'a pas gagné, elle a fait match nul, il a joué un match très compliqué à 10 depuis la 7e minute, je pense. Il a arraché un match nul, mais les retours de Prandelli, qui n'était plus entraîneur d'un club in Serie A depuis 10 ans, depuis 8 ans, pour moi c'est une très bonne nouvelle, parce que le foot italien avait vraiment besoin de retour de Prandelli. Petite stat derrière, avec les retours de Prandelli, l'Italie en Serie A, il y a 20 entraîneurs italiens en Serie A, chose qui n'arrivait plus depuis 10 ans.
Ah ouais, quand même. Ouais. En même temps, ils en font, ouais. Ok. Merci beaucoup, mon Simonet. On va aller. Non, parce que j'allais dire, je pensais à une autre stat, au fait.
Mais
Non, pas du tout. J'allais dire, c'est le troisième entraîneur du Genoa cette saison, je crois déjà.
C'est
ouf quand même aussi. C'est ceux qui ont viré le plus de coachs.
Preziosi, c'est très proche de Zamparini dans la gestion des entraîneurs.
Ah ouais?
Ouais, on va voir. Pour l'instant, il y en a 3 et moi, je souhaite que ça reste 3 parce que j'espère que Brandel fait une belle saison avec Genoa.
Dans quelques instants, les enjeux en Allemagne également de cette semaine de Ligue des Champions. On vous dit à tout de suite sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio avec Pierre Ducrot, Daniel Riolo et nos drôles de dames. À tout de suite. Toujours aussi bien accompagné. Pierre Ducrot, Daniel Riolo, nos drôles de dames sont avec nous, bien entendu. Tiens, on va filer en Allemagne. Alors tout est joué pour les clubs allemands cette semaine en Ligue des Champions. Dortmund qualifié pour la 8e, le Bayern aussi Schalke. Alors il y en a certains qui jouent la première place. Ah si, Hoffenheim qui joue une 3e place, c'est ça, une qualif en Ligue Europa.
Oui, et puis il y a de l'enjeu pour tous les clubs en fait.
Jingle l'orto.
On est gauchers tous les deux, je précise.
T'es pas gaucher, toi.
Si, tu es gaucher. Ce qui t'a mis, là.
T'es gaucher. Ça m'inquiète, alors. Franchement, je l'ai vu jouer au foot. Si
mais non, tu m'as pas vu jouer. Tu peux pas juger un joueur sur 5 minutes.
Enfin, cela dit, je pense qu'il a raison, moi. Mais,
oui, évidemment. Ah ouais. Jérôme Rotten était là.
Ça vaut pas la vague, ce jingle.
Non, mais bon, on peut pas le sortir tout le temps.
Rien ne vaut la vague.
C'est bien, mais bon.
Ah non, la vague, c'est...
Mais avant la fin de l'émission...
Oui, écoute,
tu sais,
c'est
David, que hier soir, en plein commentaire du Boca River, enfin du River Boca,
hier, on l'a passé, on l'a passé.
C'est dire si le match était passionnant.
Voilà. Mercredi, 21h, Ajax-Bayern. Les deux sont déjà qualifiés pour la 8e. Alors, c'est la première place du groupe qui se joue. Et alors, oui, pour toi, ce match, alors, on disait, tout est quasiment joué pour les clubs allemands, notamment en Ligue des Champions. Mais pour toi, ce match, il a valeur de symbole pour le Bayern.
Il va révéler, sans doute, probablement, c'est mon avis tranché, il va révéler le vrai niveau actuel, en tout cas, du FC Bayern. Match aller. L'Ajax a martyrisé, pour pas employer un mot trop fort parce que j'estime qu'il est justifié, le Bayern. Il y a eu un partout, mais c'était très chanceux. Allez, on va dire quasi miraculeux pour le Bayern, ce un partout. Il y aurait pu avoir 2, 3, 4 buts pour l'Ajax, les jeunes de l'Ajax, qui avaient fait très très mal au Bayern il y a quelques semaines. Le contexte actuel concernant le Bayern, il est précis, il est clarifié. On sait à peu près où on en est. Il y a eu un vrai retournement de situation, aussi bien dans le vestiaire, et c'est important, je peux en dire un mot, que sur le terrain, le Bayern va mieux. C'est pour moi un trompe-l'œil. Il a battu Benfica 5-1, ok. On sait que le niveau de Benfica actuel n'est pas celui d'un grand cador européen. Il a battu dans la foulée le Werder Bremen 2-1, c'était pas mal, mais le Werder est légèrement en perdition actuellement. Il a battu ce week-end dans le derby de la Bavière, l'un des derbys de Bavière, Nuremberg 3-0. Pas mal, mais c'est pas non plus les applaudissements nourris qu'on peut offrir au Bayern. Ça va mieux, mais les adversaires n'ont pas été forcément des cadors. Ça va mieux quand même. On peut donner du crédit à Niko Kovac pour cela, parce qu'il a su, en quelques semaines et en quelques matchs quand même, retourner un peu son vestiaire dans le bon sens. Il avait beaucoup beaucoup de défiance face à lui il y a encore peu de temps, hein, 2-3 semaines, et ça s'est plutôt bien retourné, parce que aussi bien dans un premier temps il avait été peu écouté par ses joueurs et il les avait peu convaincus, autant dans ses derniers discours et dans ses dernières sorties, notamment les lendemains des matchs, le dimanche matin, lorsque les joueurs se retrouvent au centre d'entraînement à la Sebenerstrasse, il a été plus convaincant avec ses joueurs. Et aujourd'hui, allez, je vais résumer simplement la chose, seuls ceux qui ne sont pas titulaires, à savoir en l'occurrence par exemple Mats Hummels et Javi Martinez, sont réellement des critiques et des adversaires de Kovac. Je simplifie, mais en gros c'est ça. Pourquoi ? Parce que Kovac a changé son système. Il a réinstallé, tiens, ce qui avait si bien marché avec Jupp Heynckes il y a 5 ans, le 4-2-3-1, le Doppel-6, les 2-6, comme on dit en Allemagne.
Doppel-6.
En l'occurrence, Joshua Kimmich et Goretzka, mais ça peut être aussi Kimmich et Thiago Alcantara si Thiago revient bien et il est en train de revenir. Et avec ces deux milieux défensifs-là, ça ouvre un peu plus de perspectives offensives pour Alaba et Rafinha, qui sont les deux latéraux, et ça marche mieux effectivement pour eux parce qu'ils sont plus dans leur profil habituel. Et ça permet aussi à Lewandowski d'avoir un soutien, en l'occurrence Thomas Müller qui joue derrière et autour de Lewandowski. Lewandowski est très heureux de ça parce que ça lui ouvre beaucoup plus d'espace dans les défenses adverses. La preuve, il a encore marqué 2 buts ce week-end, Lewandowski. D'ailleurs, 42e doublé pour lui en championnat. Seul Gerd Müller avec 55 a fait mieux dans l'histoire du championnat. Bah, c'est quand même un chiffre important. Donc Lewandowski est plus heureux. Müller est plus heureux parce que lui aussi retrouve un peu de pertinence. Les deux latéraux, je le disais, vont mieux. Et puis Kimmich joue à son poste de prédilection, milieu défensif. Goretzka retrouve du temps de jeu aussi. Donc les seuls qui sont actuellement malheureux au Bayern sont ceux qui ne sont pas titulaires, puisque Kovac a dit qu'il allait maintenant arrêter avec la rotation, à savoir en particulier, je le disais, Hummels et Javi Martinez. Mais ce match qui arrive contre l'Ajax va être un vrai révélateur, parce que ça marche mieux pour le Bayern, mais je le disais, c'était contre des adversaires, allez, on va pas dire secondaires, mais des adversaires qui seront pas les cadors de février, mars, avril. Donc le Bayern, c'est là cette semaine où il doit assurer sa première place et où mais il doit.
Est-ce que pour toi l'Ajax c'est un cador?
Ben non, c'est pas un cador. Sauf que au match aller, l'Ajax avait fait beaucoup de mal au Bayern et le Bayern s'en était très bien sorti. Donc si le Bayern veut réaffirmer une forme de puissance et une forme de domination au moment où on parle, c'est-à-dire début décembre, il doit au moins tenir un nul contre l'Ajax et logiquement s'imposer.
De toute façon, s'ils perdent, en gros, ils perdent la première place.
Ils perdent la première place. Ouais. Et ça a de l'enjeu non seulement financier, parce que ça, on n'en parle jamais. À Dortmund, je peux vous dire qu'on est très conscient de ça et qu'on sait que c'est bien de gagner contre Monaco parce que ça rapporte quelques millions d'euros en plus. Je referme la parenthèse.
Surtout que les dotations, elles sont belles.
2,5 millions, je crois. 2,7 millions.
Ils n'ont pas gagné face à Bruges, donc.
Comment? Oui.
Ils n'ont pas gagné face à Bruges.
Non, mais c'est clair.
Ils ont déjà perdu de l'argent.
Mais pour terminer sur le Bayern, affirmer la première place, parce que on est dans un club très professionnel et je ne vous l'apprends pas, mais surtout, réaffirmer sur la scène européenne qu'on a retrouvé une cohérence, qu'on a retrouvé une stabilité et que le système Kovac qui l'a changé et il a eu le courage de le changer fonctionne à nouveau.
Un mot sur Dortmund également, oui. Mon David.
Bah oui.
Vous vouliez réagir ou pas à ce qu'a dit David?
Non, c'est
ils ont que 2 points d'avance sur l'Ajax, mine de rien.
Non, mais ce qui est toujours surprenant en foot, c'est que finalement là on revient à quelque chose de très logique, quoi.
Très basique.
C'est, enfin voilà, le foot tu tournes
c'est cyclique,
un peu rond. Bah, c'est cyclique, ouais. Ouais, tu tournes un peu en rond parfois.
Simon et Daniel. À l'autre comme un enfant, il s'est fait gauler. Il était sur son. Il a fait.
Hein?
Quoi? Oui. Ouais, bah oui, non, mais je crois que David.
Il a pu répéter la fin de la phrase, il a entendu quand même.
Rêveur, qu'est-ce que je viens de dire?
L'image est géniale sur RMC Sport Radio, allez-y, bref.
Pour aller dans le sens de Simonet, c'est quand même très argumenté, cet avis tranché.
Oui, tout à fait. Alors, pour Dortmund aussi, la qualif.
Je vais ajouter les choses.
Si, ajoute-toi.
Non, il a tout dit. Comment je peux ajouter d'autres choses?
Bien sûr. Ok, Dortmund aussi est qualifié pour le 8e. Alors Dortmund qui a remporté le derby de la Ruhr ce week-end.
Ah oui.
Qui garde ses 7 points d'avance en championnat sur Gladbach, qui est ton favori d'ailleurs. Ah oui, avait fait un avis tranché.
Bien sûr.
Pour cette saison de Bully.
Dortmund, il faut en dire un mot pour le match qui vient là. Match qui paraît sans enjeu contre l'AS Monaco, parce que Dortmund est sûr d'être qualifié d'ores et déjà, comme les deux autres clubs, Schalke et le Bayern. Hoffenheim lui est hors course pour la Ligue des Champions. Mais c'est un match important pour Dortmund parce qu'il y a énormément d'absents et Favre va faire tourner de façon radicale. En ce milieu de semaine, il n'y aura pas Marco Reus qui est touché à la cuisse, il n'y aura pas Brun Larsen qui est touché au genou, il n'y aura pas Piszczek qui est touché au genou également, Thomas Delaney qui a marqué son premier but en championnat d'Allemagne ce week-end avec Dortmund sera absent pour être touché au mollet, Witzel sera ménagé et j'en termine. On va arriver à minuit donc j'en termine quand même. Jadon Sancho va avoir le droit, et c'est tout à fait normal, de retourner en Angleterre après le décès de sa grand-mère qui a eu lieu il y a quelques jours, et donc il est ménagé d'une autre façon. Donc à Dortmund, ça va énormément tourner et c'est intéressant aussi parce qu'on va retrouver des joueurs comme Schmelzer, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On va retrouver Julian Weigl, tiens, qui va avoir un peu de temps de jeu, qui va peut-être pouvoir se montrer en vue d'un éventuel transfert cet hiver. Philippe, Wolf et d'autres. Donc pour Dortmund, c'est un match quand même important, notamment pour ces joueurs-là.
Alors tu voulais glisser un mot également sur Fribourg ou le RB Leipzig d'ailleurs. Alors tout à l'heure, en préparant l'émission, je regardais, Leipzig, c'est la meilleure défense de Bully.
Ouais.
Et ils prennent plus d'un but par match en moyenne. Enfin, c'est dingue.
Non, ils sont à 0,93, je crois.
C'est un but par match, quoi, quasiment.
Oui, mais c'est la Bundesliga. Vous savez qu'il y a beaucoup de buts dans ce championnat, historiquement. Non, mais c'est vrai. Ils ont pris une raclée Leipzig ce week-end.
3-0,
je voulais rendre hommage à Fribourg par ce biais-là, parce que c'est le plus gros score de Fribourg depuis 4 ans en championnat. C'est un petit club. On pourrait dire que c'est presque le Guingamp de la Bundesliga, même si la ville, elle, est quand même une métropole régionale, malgré tout.
T'es jamais allé à Guingamp, alors, hein.
Non, mais ok, il y a 10 fois plus d'habitants. Allez, 100 fois plus d'habitants à Fribourg. Mais non, mais simplement, c'est un club qui est chaque année, c'est un miracle qu'un club comme ça se maintienne en Bundesliga, parce qu'ils ont peu de moyens, parce que l'effectif est restreint, même s'ils ont ils ont 17 ou 18 joueurs qui disputent la Bundesliga cette année, alors qu'ils n'en avaient que 14.
Le lait local.
Oui, le lait local. Bah d'ailleurs, on le voit sur les images pour ceux qui nous regardent à la télévision, le sponsor du club. Non, je voulais en parler parce que Nils Petersen, mine de rien, qui a joué au Bayern et qui a eu 2 sélections. Nils Petersen, l'attaquant, l'avant-centre, qui joue actuellement à Fribourg, est devenu actuellement.
Vous n'avez pas déjà parlé la semaine dernière de lui?
Non, de Nils Petersen, si on a dû l'évoquer.
Non, c'était pas lui.
37 buts avec Fribourg.
C'était Celui du Hertha, le Bosnien.
Non, pas Ibizevic.
André Duda. Ah, Ibizevic.
Non, je pensais.
Non, on l'a jamais fait.
J'en parle régulièrement parce que c'est un bon attaquant.
J'en ai parlé parce que c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts comme remplaçant.
Comme remplaçant,
ah,
ouais.
Ah, bravo, voilà. Simon.
Exact. Tu vois qui c'est qui l'écoute, Simon.
Évidemment qu'on fait, mais non, mais.
Écoutez le podcast, en fait.
Non, mais ça va.
Nico Villas.
D'ailleurs,
Nico Villas qui se prend pour Coluche dans le maître d'école, tu vois.
C'est ça. D'ailleurs, excuse-moi. Petite parenthèse, on vous redit merci. Vous savez que l'After est la deuxième émission la plus podcastée de France, hein. Après les grosses têtes, ce qui est la
meilleure. Non, mais avec les jingles qu'on a aussi, c'est logique.
Donc, oui, exactement, ouais.
Non, je termine juste sur Petersen parce qu'il a égalé le record de Papis Demba Cissé. 37 buts. Ouh, c'est le meilleur buteur historique de
Papis
Fribourg.
Papis Cissé.
Oui, Papis Cissé avec
oui.
Notamment une super saison là-bas.
Qui était que moi j'ai connu à Metz.
À Metz.
J'ai connu ce joueur à Metz. Il était capable de rater le but vide à 5 mètres.
Et de marquer à 35.
Il se faisait siffler. C'était terrible à Saint-Symphorien à l'époque où je jouais à la Ligue 2. Un soir, sa femme m'a ramené à l'hôtel.
Oula,
adorable.
Ça bien cette histoire.
Non, tu as une femme absolument gentille et tout. Je me souviens absolument pas des circonstances pour lesquelles c'était passé.
Elle continue encore mieux cette histoire.
Elle comprenait pas que ça la touchait lui et que ça le touchait tellement ses sifflets qu'à l'arrivée ça le paralysait sur le terrain. Il était parti parce que c'était horrible et c'est vrai, franchement, moi je commentais les matchs. Je disais, mais c'est pas possible, il a deux pieds gauches. Je le disais. Je disais, c'est pas possible.
Il
devait siffler avec.
Non, il s'était pas
de
rater pour.
Du coup, j'ai décidé de
faire le résultat. Il était parti en Allemagne et là, il s'était libéré. C'était beaucoup mieux passé pour lui.
Exactement.
C'était un type adorable, souffrait terriblement de la situation de ne pas mettre de but.
Donc, c'était lui qui était le recordman historique de Fribourg. Alors, Fribourg, c'est pas une place forte
de
la Bundesliga
non plus.
Mais 37 buts et égalé par Mitch Petersen ce week-end.
37 buts.
37 buts dans l'histoire d'un championnat. Non, mais c'est pas énorme, c'est ça que je te dis.
C'est quand même bien, mais c'est quand même bien.
C'est pas énorme.
Je sais pas combien il a fait de saison 2, je pense.
Ouais, en deux saisons, c'est bien. Attends, tu rigoles. En Bundesliga, quand tu marques quasiment 20 buts.
Je suis en train de te dire qu'un mec dont le record de buts dans un championnat, c'est 37, ouais. C'est pas énorme. C'est ça que je te dis.
Évidemment.
Tout est relatif, mais c'est pas énorme.
C'est pas un club qui est historiquement installé en DR.
Ouais, mais c'est déjà bien pour un joueur.
Mais je te dis pas que c'est pas bien, je te dis que c'est pas énorme. Tout est relatif.
Un petit cadeau, un petit bidon.
Mais il a jamais mis, cousin, les 37, toi.
Ah non, ça c'est sûr.
Voilà.
J'en ai beaucoup, moi.
Et toi non plus, rigole pas.
Das Cador, das Bidon,
ah, prévu, d'ailleurs. Ouais, le Cador, rapidement. Dieter Hecking, j'en ai déjà parlé, mais l'entraîneur.
Après, tu fais des trucs dont t'as déjà parlé à chaque fois.
Non, mais là, il fait un super coaching parce que.
Ah, c'est cyclique le foot.
On est dithyrambique avec Alassane Pléa.
Dieter Hecking. Mais ouais!
Dithyrambique,
il a dit.
Ah, pardon.
On en fait toujours des caisses sur Alassane Pléa à juste titre parce que c'est un très bon attaquant de cette Bundesliga cette saison. N'empêche que ce week-end, Pléa est muet. Enfin, il marque un but, mais qui est refusé pour hors-jeu à juste titre. Il sort au bout d'une heure de jeu. Remplacement très, très bien vu de Hecking, qui fait rentrer Raphaël, le Brésilien, qui marque. Gladbach s'impose 3-0. Et là encore, c'est l'entraîneur qui a la main verte et qui réussit un bon coaching pour que son club repasse devant le Bayern en championnat.
Et très, très vite, ton bidon.
Benjamin Pavard. Non, à l'allemande, c'est fait exprès. C'est pour avoir un nouveau jingle. Benjamin Pavard.
Comment il l'appelle en Allemagne?
Benjamin Pavard. Ils essayent de prononcer correctement les
Benjamin, les comment ça donne?
Benjamin.
Oui, bon, Benjamin, c'est un peu Pavard. Entre les deux, on va dire.
Pavard, top.
Et le pauvre Pavard a marqué contre son camp ce week-end. Il s'est blessé en plus. Et
il y a eu des mots
très durs de Van der Vaart à son encontre en disant que c'était un joueur très moyen. Mais en disant aussi, et ça va au crédit de Benjamin Pavard, qu'il pouvait pas tenir Stuttgart à lui tout seul et que si le club descendait en fin de saison, c'est pas seulement la faute du pauvre Pavard.
Ah. Merci mon Lorto.
Ça va le réconforter.
Dans quelques instants, on ira en Espagne avec Fred Hermel, la vie tranchée qui concerne Ousmane Dembélé. À tout de suite avec les drôles de dames, Pierre Ducrot et Daniel Riolo. Accompagné de Daniel Riolo, de Pierre Ducrot et de nos drôles de dames, Fred Hermel, alors, il est arrivé un petit peu plus tard ce soir, notre Fredo, vous savez pourquoi?
Eh ben parce qu'il va parler de Dembélé qui arrive en retard aussi.
Bravo.
Génial,
bravo. C'est nickel.
Ben non, la vraie raison, c'est qu'il était au trophée As ce soir, les récompenses As. Oh. Alors il y a eu qui là de récompenser, il y avait qui? C'était bien, c'était pas bien, c'était comment?
En fait, c'est hashtag MeToo cette année. Non, vraiment, ils l'ont dit, il y a que des femmes, que des sportives. Il y avait aucun sportif récompensé. Donc c'était voilà, il y avait notamment la plus
les femmes étaient contentes de cette discrimination.
Je sais pas envie d'en discuter ce soir, quoi, je suis fatigué.
Non, mais je sais pas, dis-moi.
Non, enfin,
parce que les femmes étaient contentes de ce fichage ethnique. Puisque c'est pas autre chose.
Ouais, c'est bizarre.
À partir du moment où
tu te mets à
différencier,
voilà,
écoute, tu fais du fichage ethnique.
J'ai pas pensé, je trouvais ça. Écoute, je veux dire, à côté de moi, j'avais une
là, en l'occurrence,
c'est un moment où tu mets en avant des différenciations, tu es dans la même logique. Donc, je te demande, est-ce que j'étais content?
Je suis plutôt d'accord avec Daniel. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y avait une journaliste à la retraite qui est une journaliste femme historique du journalisme sportif en Espagne, qui a été pendant de nombreuses années la présidente de l'association de la presse sportive en Espagne. Qui elle trouvait aussi que voilà que qu'elle aime pas trop qu'on sépare comme ça. En tout cas bref voilà, c'était une soirée.
À l'année prochaine ils peuvent faire j'en sais rien moi les récompenses uniquement pour les sportifs originaires de tel ou tel pays.
Ça existe en Angleterre.
Ah bon?
Oui, ils font les trophées par exemple, ils s'appellent je l'explique dans le livre. Pour les sportifs issus des minorités. Voilà les BAME en Angleterre. C'est là Julien, tu peux le confirmer.
Ça c'est de la ghettoisation.
Tout à fait.
Quoi.
Voilà, ils font non mais le communautarisme est quelque chose qui est complètement assumé, décomplexé en Angleterre.
Et qui est une politique réelle,
oui, exactement.
Contrairement à la politique d'intégration de France. Donc
alors après c'est officiellement c'est pour la promotion aussi hein, c'est pour aider à la discrimination positive, justement, qui est une forme de discrimination.
Mais tu l'as aussi dans la musique, hein.
Et
tu
on
l'as aussi dans
la musique, c'est pas que dans le sport. On ne sait pas forcément, enfin, le débat existe.
Ah, mais savoir si c'est bien, pas qu'il existe, pas c'est bien. Que, contrairement à la France, c'est pas interdit.
C'est très facile de porter forcément un jugement. Moi, je l'ai fait, là, pour provoquer. Mais ça mérite, même la discrimination positive. Aux États-Unis, ça a été fait. Marché, pas marché, j'en sais rien.
Rooney Rule, ouais.
Enfin bon, voilà.
Moi, déjà, quand ça s'appelle discrimination, j'aime pas.
Moi, pareil, je suis plutôt de cet avis, mais bon.
Petite info avant de parler de Dembélé. Vas-y. Ça vient de tomber. Le match Gérone-Barcelone prévu le 23 janvier à Miami ne va pas se jouer finalement, puisque le Barça qui appuyait cette idée s'est retiré son appui. La Liga vient d'annoncer que cette délocalisation pour une fois d'un match de Liga pendant la saison n'aura pas lieu. Voilà.
Avis tranché, Fred Hermel.
Allez.
Et donc, jingle, Fred Hermel.
Un frisson, c'est mon calame, c'est. Ah, tu vois, c'est la différence entre les gens qui pratiquent et ceux qui regardent sous Google Crad. Google Crad.
C'était hier soir.
Ah, c'est hier soir.
Voilà, en pleine finale, retour de Copa Libertadores, River Boca. Voilà.
Et pour finalement avoir tort, mon frérot.
Avoir tort, bien sûr, à la pauvre d'espagnol.
Parce que les calambres, ce sont vraiment des crampes en espagnol. Voilà.
Oui, bah, j'étais fatigué, tout ça.
Alors, ton avis tranché concerne Ousmane Dembélé. Alors, c'est vrai que ce week-end, il a plutôt brillé sur le terrain. Le Barça gagne 4-0 face à l'espagnol. Il met un but, il met une passe D. Et il arrive le lendemain avec 2 heures de retard à l'entraînement. Et alors, toi, tu dis, faut que le Barça le vende, alors.
Alors, c'est la conférence de presse aujourd'hui de d'Ernesto Valverde qui non seulement n'a pas démenti le retard de Dembélé mais l'a totalement authentifié, 2 heures de retard. Et c'est surtout cette réaction de cet entraîneur, on lui a posé la question alors voilà, et il disait vous comprenez, on joue un derby, on gagne 4-0 facile, tout le monde est content. Je me suis dit on va avoir un bon dimanche tranquille là, il fait beau. Et puis il se passe ça quoi, le mec il est dépité. Et je pense vraiment qu'ils ont lâché le coup là, qu'ils ont lâché l'affaire. J'ai vu un entraîneur, on lui posait des questions, mais quand on vous expliquait, il dit j'ai pas d'explication quoi. Non mais c'est un type qui normalement répond à tout, il a une réflexion sur tout, et là, l'entraîneur, et Dieu sait si j'aime bien cet entraîneur, n'a pas de solution pour Dembélé. Il est totalement dépité, et donc je pense sincèrement que au bout d'un an et demi, après tous ces soubresauts, après la dernière chance qui lui a été laissée, on avait vraiment l'impression qu'il avait pris conscience, qu'il était en train de revenir dans le droit chemin, qu'il allait enfin être intégré dans un grand club. Je pense que le Barça doit le vendre le plus vite possible et qu'il aille dans un club de deuxième zone où il n'y a pas cette exigence, où il aura le droit, où il sera la petite star et où il aura le droit d'arriver en retard parce que là c'est plus possible. Et c'est con parce que j'aime bien ce joueur. Il a un talent monstre. Il a fait un match merveilleux dans le derby. Il avait été très bon l'autre jour contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions. Il a fait plusieurs rencontres de bon niveau. Il avait été très bon quand il était entré à Madrid contre l'Atlético. Il avait marqué le but de l'égalisation. Mais là je pense que il est, tout le monde est dépité là, il y a pas de solution et c'est fini quoi. Voilà, c'est tout. C'est, il a eu plein de chance, il les a pas saisis, donc allez, il faut qu'il s'en aille, qu'il aille dans un club, j'insiste, où il pourra faire ce qu'il veut, mais il n'a pas le professionnalisme pour jouer dans la meilleure Liga du monde et dans un club aussi important que le Barça.
Alors le problème donc, le problème là Fredo, c'est s'ils le vendent maintenant, bah c'est que forcément il va être décoté à mort, hein, et donc ils ont quand même mis une blinde.
Ouais, mais il y a bien un club anglais, Julien, qui va faire un gros coup, voilà.
Oui, c'est possible. Après, peut-être pas. Il va falloir que le Barça perde de l'argent. C'est ça le problème. Parce que personne l'achètera au prix qu'ils l'ont acheté eux, ou ils feront pas une plus-value à la vente. Après, il y a beaucoup de clubs anglais qui seraient très intéressés par Ousmane Dembélé, malgré ses problèmes disciplinaires.
Bah oui, c'est pour ça que je pense qu'il peut partir et qu'il faut qu'il parte, quoi. Parce que là, il a pas compris. Ça fait quand même 1 an et demi qu'il est au Barça. C'est pas, il vient pas d'arriver, quoi. Ça fait 1 an et demi, quoi. Et là, il a loupé sa dernière chance, là. Parce que c'est pas 10 minutes de retard, c'est 2 heures, quoi. Enfin, Pierre, 2 heures, c'est un truc de malade.
Une fois que
tu loupes
le réveil et que tu dors, ça peut être 1, 2, 3.
Bah non, mais ça veut dire que c'est, vous souvenez, sur l'antenne des RFC Sport, on avait même le président Le Graët qui, quand il avait offert la montre pour les champions du monde, lui dit, je pense que t'en auras besoin. Tout le monde lui en a parlé, enfin Deschamps lui a averti, etc. Parce que c'est son avenir au Barça, mais c'est son avenir en équipe de France aussi, hein, qui est en jeu là. Hein.
Pierre. Moi je comprends ce que Fred veut dire. Je suis persuadé que le Barça ne le vendra pas cet été.
Cet hiver. Non, parce que ce serait une trop grosse perte.
Parce que c'est pas le meilleur moment pour eux de le vendre.
Sauf s'il y a.
Non, il y aura pas. Ouais, mais justement, il y aura pas, je pense moi. Il y aura pas cet hiver.
Si, je pense que c'est pas
impossible, moi je dis.
Ouais, moi je pense qu'il peut y avoir une offre. Hein. Julien, en Angleterre, il y a des clubs, ils sont comme des fous, un joueur comme ça, t'imagines, champion du monde.
Ou alors ça peut être un prêt avec option d'achat, tu vois. Enfin, tout est envisageable. Hein. Ah bah pourquoi pas.
Oh, non, pas sur un joueur comme ça.
Moi, avec option d'achat obligatoire.
Moi j'y crois pas.
Bah ils l'ont fait avec Mbappé, le PSG, pour la, par rapport au fair play financier, etc.
Par rapport financier.
Ouais, mais non, c'est ça le problème de la plupart des clubs qui ont de l'oseille.
Mais il
n'y
a même pas de colère, Barcelone.
Moi j'y crois pas. Le Barça lâchera pas un club. Je sais pas, je vois pas le Barça lâcher Dembélé maintenant. C'est quand même un joueur, et tu l'as dit, qui peut faire des différences énormes.
Ah mais il était très bon.
Et ça veut dire que tu vas le laisser partir quelque part, parce que s'il part, il va pas non plus partir à Bournemouth, on est d'accord. Ça veut dire qu'il y a des chances que ça renforce un potentiel adversaire en Ligue des Champions. Ça, il y a tout ça aussi. Donc moi j'ai du mal à y croire.
Mais toi Pierre, toi ton entraîneur, un entraîneur comme Valverde par exemple, il a déjà sanctionné, il avait déjà écarté du groupe. Qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il y a de plus comme sanction?
Mais tu sais quoi? Pour l'entraîneur, ce qui est gênant, c'est pas tant le joueur lui-même, c'est dans ta gestion du groupe quand t'as un joueur comme ça. Ou là, ça pose problème.
T'es obligé de le sanctionner.
Alors t'es obligé de le sanctionner, sauf qu'à un moment donné, quand en face ça répond pas et que c'est pas fait parce que moi je suis persuadé que c'est pas fait volontairement, c'est qu'effectivement il lui manque du professionnalisme et qu'il est encore presque un gamin quoi. Et peut-être que Valverde va faire comprendre à son groupe qu'on va continuer d'utiliser Dembélé parce que c'est un très bon joueur et qu'il faut un peu accepter ça, ou en tout cas essayer de le cadrer, mais qu'on n'y arrivera pas complètement quoi.
Ouais, mais les joueurs vont dire, mais pourquoi lui il a le droit d'arriver en
faire
et
pas nous? Parce qu'il n'y arrive pas et que...
Je suis un peu étonné parce que son passage de France vers Dortmund, il s'était très bien épanoui et le club peut-être le protégeait, ça j'en sais rien. Mais
c'est carré en Allemagne aussi quoi.
Ouais, mais on rigole pas trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être le Barça est un peu fautif aussi là. Je parle pas de l'entraîneur, mais peut-être que le club le protège pas.
Bah, c'est carré en Allemagne, je pense pas que le Barça accepte ce genre de conneries non plus. Hein, ça veut rien dire.
C'est pour ça.
Ah oui, c'est ça.
Bah, voilà. Je suis étonné,
pourquoi? Parce que l'info est sortie. Moi, j'étais sûr que c'était vrai. C'est une radio catalane très bien renseignée qui s'appelle Racou qui l'a sorti. C'était filtré. Il y avait des filtrations du groupe. Je pense que c'est sûr que l'info vient d'un joueur, parce que les joueurs ça doit les énerver aussi, quoi.
Ben,
voilà.
Sûr.
Donc, à un moment, peut-être qu'en Allemagne il faisait les mêmes conneries, mais qu'il était protégé, ça ne sortait pas. Mais en Espagne, ce genre de choses, c'est évident que ça sort. Aussi parce qu'il a des concurrents. Hein. Parce que quand je comprends. Moi, je suis sur le banc parce que Dembélé joue. Dès qu'il fait une connerie, j'ai peut-être tendance à avoir envie que ça se sache. Voilà.
Alors Fredo, il nous reste une minute. Alors ton cas d'or de cette semaine, c'est Thibaut Courtois. Tu voulais l'évoquer parce que le Real gagnait 1-0 chez le dernier à Huesca.
Voilà, c'était
et gracias Courtois, quoi.
Ah bah s'il y a pas Courtois, bah le Real perd chez la lanterne rouge. Voilà. Beaucoup de gens m'ont posé la question sur Twitter au sujet de Keylor Navas. Keylor Navas aujourd'hui ne joue plus que la Coupe du Roi. Lopetegui n'avait pas choisi entre les deux gardiens, ils alternaient. Aujourd'hui c'est clair, c'est Courtois le numéro 1, celui qui vient de gagner 3 Ligues des Champions de suite. Et ben il joue plus que la Coupe. Et Courtois est excellent. Il est vraiment très très bon. Hier, il sauve le Real. Donc voilà, c'est mon coup de cœur ou mon cadeau de la semaine. Et puis je vais changer pour le bidon. Je voulais parler de Valence, mais entre temps, il y a Javi Cayetra, l'entraîneur du Real, qui est parti. Voilà, donc le bidon. Voilà. Mais c'est presque mieux pour lui parce que déjà au mois d'octobre, j'en avais parlé de son possible départ. Ça a duré très très longtemps. Villarreal qui a encore perdu à domicile 3-2 contre le Celta Vigo. Donc c'est peut-être un bien pour cet entraîneur qui attendait sur la porte de sortie depuis des semaines et c'était insupportable à vivre pour lui.
Ok, merci Fredo. Tiens, on va accueillir Warai, qui est le gagnant du grand jeu de Noël. Vous savez que vous gagnez des cadeaux tous les soirs dans l'after. Vous envoyez Noël au 732-16. Tu veux le faire, Daniel? Alors on va accueillir.
Allez.
Salut Warai.
Tiens. Salut.
Comment ça va Warai?
Ouais, ça va et vous?
Bah écoute, ça roule, mon pote, tu vas gagner un cadeau. Et en plus, c'est Daniel qui te l'offre.
Attention, mon vieux.
Ça veut dire que pour que Daniel offre un truc, faut vraiment pas que ce soit lui qui paye.
Ouais, c'est clair.
Le mec, il est sympa.
Sois bon, hein.
J'ouvre l'enveloppe.
Il ouvre l'enveloppe. Hein. Oh là, quel suspense, quel
c'est
suspense.
C'est une enveloppe du magasin Office Depot, fournisseur. Et je pense qu'il y a deux cadeaux parce qu'il y a deux papiers. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal pour toi.
C'est vrai.
Il y a une enceinte JBL Flip et un skateboard électrique.
Ah bah voilà, super, génial.
C'est rare qu'il y ait deux cadeaux. Eh ben toi, t'en as deux. C'est normal, c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe.
Bonne soirée, Warai.
Voilà,
merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Ciao, ciao, Warai.
C'est avec moi, ça croque.
Ça y est, Paris.
Le dernier avait quand même gagné deux places pour le PSG Liverpool, non?
Ah non, ça c'était autre chose, c'était pas le cadeau de Noël, ça.
Ah non, c'était pas le cadeau.
Ah non, c'était cadeau RMC, ça c'était genre.
Ah d'accord, ok. Là c'est le Père Noël, quoi.
Là c'est Noël RMC. Vous avez envoyé Noël au 732-16. Vous continuez de le faire d'ailleurs pour demain, par exemple. Voilà. Et vous serez tiré au sort.
Moi je vais envoyer cadeau.
T'as envoyé cadeau, toi?
Du coup, t'as toujours rien. C'était trompé la semaine dernière.
Ah, il est con, lui.
Du coup, il a rien.
Pourtant, t'as dit, c'est Noël.
Je m'étais trompé, là, tu le répètes.
T'as trompé, attends.
En même temps, tu t'es perdu skate.
Non.
Bon, bah voilà.
Est-ce que tu sais faire du JPEG, là? Je sais pas quoi, là.
Mais non, c'est une baffe pour écouter la musique.
Je sais. Mais t'imagines de voir.
JBL.
Ouais, mais lui, il est capable de faire du skate là-dessus, lui. Quand il est enceinte.
Je mets le permis sur les skates et va vite, comme ça.
Ah, va vite, toi. Ah, t'es là, hein. Intelligent le mec. Hein. Et... Merci beaucoup David Lortolari.
Avec plaisir, monsieur.
Merci beaucoup Simone Rovera.
Ciao. Bon
merci Julien Laurence.
Merci à vous.
Merci beaucoup Fred Hermel.
Adieu, Ligue des Champions.
Merci Pierre Ducrot.
Merci Nicolas.
Merci Villas. Daniel Riolo.
Merci messieurs.
Merci les mecs. Merci Arthur Robert. Merci Quentin Barber, bien entendu. Merci à toutes et à tous.
Merci
et merci encore pour votre fidélité. On rappelle, deuxième podcast de France. Eh, mais là ou pas?
Eh mon gars.
Allez, à demain. Bisous, bonne nuit. Ciao.